Il voulait tout savoir, être au courant de tout. Il lisait énormément, il lisait tous les journaux, de la droite à la gauche, etc. Il allait voir tous les films, il prenait le temps d'aller voir les expositions, qu'elles soient de peinture ou de photographie. Il voulait tout savoir, s'intéressait à tout. Par exemple, le monde qu'il appréciait, bon, c'est là où il découvrait ces informations. C'est des petites brèves, c'est des trois lignes quelquefois qui lui ont dit « faut aller là ». Enfin, je pense notamment à l'Irlande. Pourquoi le 15 août, il a été à Londonderry? C'est parce qu'il avait compris qu'il allait se passer quelque chose, parce que c'était la fête du catholicisme, la fête de la Sainte Vierge du 15 août. Et il s'est dit « là, il y a une grande chance que ça pète sérieusement ». Et effectivement, personne d'autre que lui n'avait pensé à ça, n'avait envoyé un journaliste, rien. J'ai jamais été déçu sur quelque plan que ce soit, jamais. Aussi bien sur sa conduite que sur la qualité de ses images. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, mais vraiment extraordinaire. C'est pour ça que son nom est aujourd'hui devenu un mythe et que les photographes de Gamma, maintenant, s'appellent un peu imprudemment, du reste, les enfants de Gilles Caron.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Hubert Hanroth, qui fut l'un des fondateurs de l'agence Gamma en 1967, a fait travailler les meilleurs photojournalistes de ces années-là. Et parmi les reporters, dont les noms sont dorénavant connus dans le monde entier, Gilles Caron est lui, comme il le dit, devenu un mythe. Hyper doué et hyper productif, Caron a laissé en 5 années de travail sur tous les fronts près de 100 000 photos, parmi lesquelles d'inoubliables images du Vietnam, de l'Irlande du Nord, du Biafra, mais aussi celles de Cohn Bendit en mai 68 devant un CRS, ou celles de De Gaulle pique-niquant avec les Ceausescu. Gilles Caron avait tout juste 30 ans lorsqu'il disparut en avril 1970 à la frontière entre le Cambodge et le Vietnam avec 2 autres journalistes français. Deux livres viennent de sortir qui se complètent pour nous faire comprendre ce que furent les années de formation puis le travail de Gilles Caron. J'ai voulu voir, publié chez Calman Lévy, recense ainsi les lettres échangées avec sa mère, femme engagée, militante du PSU, et notamment toutes celles qu'il lui envoya durant les 22 mois de son service militaire en Algérie, de 1960 jusqu'aux accords d'Évian. Aux éditions Liénard paraît également son scrapbook, photos, planches contact, lettres, annotations et entretiens, passionnante immersion dans l'univers du photographe. Pour nous en parler ce soir, Marianne Caron-Montelli, son épouse, et Michel Poivert, historien de la photographie, qui prépare pour l'an prochain une exposition qui lui sera consacrée à Lausanne.
C'est la pomme, si je
Bonsoir Marianne Caron-Montelli.
Bonsoir.
Bonsoir Michel Poivert.
Bonsoir.
Il y a plus de 40 ans que Gilles Caron a disparu. Pourquoi, on se demande en voyant ces livres tellement évidents, tellement passionnants, pourquoi a-t-il fallu autant de temps, Marianne Caron, pour les avoir entre les mains?
Parce que l'évidence, c'est pas évident justement. Il faut le temps pour arriver à l'évidence. Il m'a fallu beaucoup de temps.
Beaucoup de temps pour accepter de...
Pour pouvoir le faire.
Pour pouvoir le faire.
Oui.
C'était vous l'obstacle alors?
Sûrement.
Parce que, voilà, c'est rare quand même, un photographe, Dieu sait si des journalistes et des photographes ont disparu dans les innombrables guerres de la planète, mais c'est vrai, comme le disait Hubert Henroth, tout le monde connaît le nom de Gilles Caron, tout le monde a des images en tête, et on se dit, mais comme si les 40 ans ne... c'était beaucoup plus restreint. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Le temps, vous savez... C'est bizarre, et en fait, la disparition de quelqu'un, c'est pas la mort de quelqu'un. Il faut déjà admettre la disparition, faut rentrer dans la disparition, c'est quelque chose qui s'installe, qui arrive pas comme ça, comme la mort d'une seconde. La mort, il n'y a plus rien au bout de tout de suite, mais la disparition, c'est le rien qui s'installe doucement, jour après jour, et qui, au début, ça n'a aucune réalité. Au fait, pourquoi on a toujours dit que le premier mot pour Gilles, c'était Gilles Caron a disparu. Pourquoi? On n'a jamais dit il est resté de l'autre côté de la frontière, il est resté là, il a fait ça. Non, il a disparu. Et ça, cette réalité, elle a dû s'installer pour tout le monde. Se mettre petit à petit, ça a été très long.
Michel Poivert, vous qui connaissez si bien la photo à travers le monde, la place de Gilles Caron, comment est-ce que vous la définiriez?
C'est un personnage dont la production et la vie fut-elle brève, une sorte de fulgurance. Hein. Souvent l'habitude de dire que c'est une figure rimbaldienne, hein. Très peu de temps, mais une fulgurance. Sa place, on est en train de la construire, sa place, parce que je pourrais répondre à votre première question en disant que si les historiens de la photographie n'ont pas parlé de Gilles Caron, bien que les images, quelques images, soient connues de tous, c'est parce que les archives n'étaient pas disponibles. Et là, il faut rendre hommage au travail que fait la Fondation depuis quelques années. Récolter les images, les récupérer, les scanner, les inventorier. Bref, un travail presque de musée et d'archives, en tout cas. Et donc, pour les historiens de la photographie, Gilles Caron, c'était un nom et 4-5 images.
4-5, c'est tout?
Disons que ce qu'on appelle un peu vulgairement des icônes. Et puis... sont arrivées quelques publications, le photopoche, les ouvrages comme ça, qui ont commencé à montrer qu'il y avait tout autre chose. Et la place qui est en train de se dessiner, hein, c'est un travail qui est en cours, on a commencé à le faire aussi avec l'association Gilles Caron, est assez exceptionnelle. Je dois dire que, là je vais parler vraiment un peu froidement en historien de la photographie, c'est un objet extraordinaire parce que, fût-elle brève, la carrière de Gilles Caron fait le pont entre une histoire classique du photojournalisme hérité de Robert Capa, des années 30, de l'héroïsme. Et ce qui se passe à la fin des années 60, notamment en France, mais pas simplement, qui est ce que j'appelle la conscience malheureuse du photographe. C'est-à-dire des photographes qui se trouvent pris, je crois peut-être dans l'aventure la plus incroyable que l'homme ait dictée à l'homme, regarder, témoigner, mais ne pas pouvoir agir. Et quand on consulte les écrits, mais surtout les images, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a une démonstration, il y a un méta-récit chez Gilles Caron, quand on se plonge dans les archives, qui démontre vraiment visuellement que Gilles Caron a compris, à partir de la fin des années 60, que faire ce métier, sans se poser de cruelles questions sur le sens qu'il pouvait avoir, c'est passer complètement à côté de son œuvre. Et je dis bien une œuvre. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de planches contact qui nous attendent, qui attendent les chercheurs. Et plus je m'y penche, plus je découvre ce langage à la fois des formes, mais aussi des significations. Et le doute s'installe dans le propre métier que réalise Gilles Caron. Pas tout de suite, pas au début, mais peu à peu, on voit qu'il est en train de remettre à plat le sens du témoignage visuel pour l'information.
De toute façon, Marianne Caron-Montelli, cette pensée en mouvement, enfin, qui se sent tellement à travers ces photos, elle se découvre dans ce livre très étonnant que vous avez décidé de publier chez Calman Lévy. J'ai voulu voir ces lettres d'Algérie, mais des lettres d'enfants aussi et d'adolescents avant. En fait, il y a une continuité incroyable, on le sent chez cet homme, chez cet enfant, ce garçon, cet homme. Il y a une pensée qui sans cesse interroge le monde, sa place dans le monde. Et quand on regarde le scrapbook à côté, on se rend compte qu'il y a vraiment une unité dans ce qu'il a été. L'écrit et la photo, c'est la même chose.
C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Parce que, justement, en commençant par les lettres d'enfant, c'est pour montrer qu'il était déjà comme ça quand il était petit. Il avait déjà ses raisonnements, ses réflexions, ses manières de vouloir comprendre les choses. Et quand on a fait le scrapbook, c'était un complément. Tout ça, ça marchait ensemble. C'était pour montrer l'homme qu'il était. En fait, les gens connaissaient ces photos. C'était des photos, disaient « Oh, cette photo, je la connais », sans savoir que c'était Gilles. Mais s'il a pu faire tout ce travail si vite, c'est parce qu'il était formé, c'est parce qu'il avait, toute cette connaissance, ou cette curiosité et toute cette volonté de les vivre aussi. Et tout ça, ça fait un tout qui fait qu'il a eu la vie qu'il a eue si brève et si intense, si vous voulez.
Alors évidemment, il faut dire que l'école de formation du photographe, elle a été l'école de la guerre d'Algérie, ce qui n'est pas simple pour un jeune garçon jusque-là à protéger quand même, même s'il avait beaucoup voyagé déjà dans le monde. On va écouter, avant d'en parler, la lecture d'une lettre à sa mère qui était sa confidente, qui était presque, j'allais dire un mot un peu étrange, son directeur de conscience, parce qu'elle le nourrissait politiquement de son engagement à elle, des écrits, des livres. Ils parlaient énormément de livres ensemble. On va écrire une lettre qu'il lui a écrite de Mont-de-Marsan. C'est le 29 avril 1960. Il est en train de faire, à ce moment-là, ses classes dans les unités parachutistes.
Mont-de-Marsan, 29 avril 1960. Chère Mam, tu ne sais pas comme la brochure de témoignages et documents m'a remué. Lu par un militaire surtout, caserné à Mont-de-Marsan, ces articles semblent de véritables appels à la désertion. Pour un civil, ce n'est qu'intéressant. Il peut se demander pourquoi, en effet, il n'y a que 3000 types qui ont déserté pour ne pas aller en Algérie. Mais pour un militaire comme moi, et pour beaucoup d'autres aussi isolés qui ont horreur d'aller là-bas, mais qui ne peuvent rien faire pour l'éviter, ça ouvre de nouvelles perspectives. Personne avec qui en parler, et cette désespérante impression d'impuissance. Refuser ? 2 ans en prison à Solferino, anonyme, oublié. Ce serait trop idiot, ça ne servira à personne. Alors on se laisse aller et embringuer comme je le suis. L'irresponsabilité est si tentante. Il suffit de suivre le mouvement. Il reste en chacun de nous assez de bêtes fauves pour avoir un besoin inavoué de connaître un peu ce qu'est le combat. On ne peut juger les paras qu'en Algérie, et pour connaître l'esprit para, il faut y aller. Beaucoup d'appelés par antimilitarisme, si l'on peut dire, ont demandé les paras. Plutôt que de moisir à Vincennes 2 ans, ils ont voulu vivre une expérience à part. Et pour vivre cela, un type comme moi n'a qu'à oublier, pour 2 ans croit-il, qu'il est de gauche. Être un choc, c'est un peu un sport. La guerre d'Algérie a perdu tout son contenu politique. C'est un stade où l'on devient une grande personne. Et tout d'un coup, j'apprends qu'il y a des jeunes plus responsables, organisés, qui ont refusé. Que déserter, ce n'est pas partir à l'étranger pour y refaire sa petite vie, mais retrouver des garçons de mon bord. Si tu savais comme je les déteste au fond, ceux qui m'entourent, comme je préfère les insoumis. C'est tellement plus grave maintenant que je suis à l'armée. Si seulement Paris Presse avait parlé de Janson 5 mois plus tôt, ce serait ma vie entière qui s'en trouverait marquée si je partais aujourd'hui, et la tienne aussi. Seul, je serais parfaitement capable de m'accrocher à l'étranger, mais toi. On ne se verrait peut-être pas pendant longtemps, je ne sais plus quoi faire. Mon existence, je n'y attache pas tant d'importance, mais je la voudrais honnête. Et si je pars, je me trahirai un peu.
Marianne Caron-Montelli, on sent bien à la fois le désir de s'engager, la curiosité pour ce qu'il allait découvrir, le désir de le pousser jusqu'à l'extrême, parce que les parachutistes, c'était pas rien. Il avait déjà fait du saut en parachute, mais L'interrogation sur faut-il déserter, parce qu'il le dit, il était plus proche au fond de ceux qu'il allait combattre que de ceux qui les combattaient.
Oui, mais ça a été terrible pour lui, c'est un moment très très douloureux, il a vraiment essayé de déserter. Je crois qu'il a envoyé des lettres pour qu'on l'aide, et il n'a pas trouvé d'aide. C'est très dur aussi de prendre, je pense, les personnes qui ont reçu cette lettre, je ne sais pas qui c'est. De prendre la responsabilité de faire déserter quelqu'un, un garçon de 20 ans. C'est vraiment un engagement sur sa vie qui est très, très profond. Et ça a été une période épouvantable.
Mais dans beaucoup de lettres, on sent aussi cette ambivalence qu'on a souvent d'ailleurs entendu raconter par des garçons qui ont eu cet engagement. C'est que à la fois, il y a l'horreur absolue de ce qu'ils sont en train de faire, et puis un esprit de corps, c'est-à-dire qu'ils critiquent souvent les étudiants qui, à l'époque, peuvent manifester à Paris. Ils disent, mais de quoi ils parlent? Ils ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas paras. Il y a aussi cette fierté-là.
Fierté, je ne sais pas, mais enfin, il y a un tel décalage entre ce que vivent les étudiants parisiens et ce que... Gilles était un étudiant parisien, et de se retrouver para en Algérie, il y a un tel décalage que c'est vraiment insoutenable, c'est invivable, c'est incompréhensible, quelque part. Et Gilles voyait très bien que les étudiants parisiens étaient à milieu de la guerre d'Algérie, de ce que représentait effectivement la guerre d'Algérie. Et c'était... Non, ça a été épouvantable.
Ce lien avec sa mère était un lien évidemment important. Je passe sur le fait que c'était sa mère. Mais intellectuellement parlant, il y avait quelque chose de très fort.
Elle a été très, très formidable pour lui. Je pense qu'elle lui a permis de devenir celui qu'il est devenu. En fait, elle l'a toujours considéré comme un égal. Elle lui a toujours parlé comme à quelqu'un de responsable. Et en ça, c'était une mère extraordinaire. Et Gilles parlait de tout avec elle. Il pouvait construire sa vie, construire le monde. Il lisait beaucoup, il partageait les films, moins, mais il partageait les livres tout le temps. Et c'était ça qui l'a fait tenir en Algérie aussi. C'était aussi cette conversation avec sa mère.
On va écouter d'ailleurs une autre lettre qui, elle, a été publiée dans le journal L'Express. C'était en août 1960.
5 août 1960, en opération. Nous avons été héliportés dans un petit village à flanc de piton, et nous n'avons pas bougé pendant 2 jours. Il ne restait plus que des femmes dans ce village. Tous les hommes, plus ou moins rebelles, disparaissent dans la montagne dès que l'on arrive. Nous commençons par fouiller les mechtas, c'est-à-dire répandre les sacs de farine sur le sol, balancer les lentilles, casser les plats, chasser et tuer les poules pour notre consommation personnelle. Je n'ai pas touché à mes rations. Au bout de 2 jours, le village était saignant, jonché de cadavres de chèvres égorgées dans lesquels nous taillons des beefsteaks. Notre sergent, en slip blanc, pieds nus, courait partout avec un sabre et jouait au matador avec les ânes. Un véritable déchaînement de violence, de cruauté aussi. Des chèvres bastonnées pour le plaisir, des poules plumées vivantes. Pourquoi ? Les femmes étaient fouillées dans les mechtas, une à une. À la première, j'ai eu un choc. C'était une vieille. Elle est rentrée en relevant ses jupes, pour me montrer qu'elle connaissait nos mœurs, sans doute. Ensuite, elle a ouvert tout grand sa bouche, afin que je constate qu'il n'y avait pas de dents en or à arracher. Ce matin, nous nous sommes levés à 5 heures et nous avons tout brûlé. Toutes les femmes étaient rassemblées dans un coin, assises sur leurs talons avec les gosses, tassées les unes contre les autres, silencieuses et terrifiées. 72 en tout, en comptant le seul homme présent, un aveugle de 30 ans qui n'avançait que sous une grêle de coups de bâton. C'était la première fois que je voyais des gens stupéfiés de douleur, en proie à une sorte d'incompréhension lucide de leur condition. Nous les avons toutes ramenées à un poste SAS, à quelques kilomètres de là. Elles étaient en haillons, sales, pieds nus, marchaient en se bousculant, et nous, jeunes et propres, nous les injurions, les méprisions. C'était trop atroce pour que cela puisse durer, quand je pense à ce que ces gens ont dû souffrir depuis 6 ans. Il y a évidemment des moments de détente. Le soir, quand il commence à faire bon, nous nous couchons en silence pour l'embuscade, et c'est le grand calme. Dès que les hommes se taisent un peu, on dirait que tout respire plus librement. Les sources, les aboiements des chacals, le cri des oiseaux de nuit. On en oublie la pacification. Et tout d'un coup, bam, ta-ta-ta, boum. Ça accroche quelque part et le silence retombe. Gilles.
À Marianne Caron, c'est très douloureux de se rendre compte qu'en fait, il y avait un dédoublement à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faisait ça et il se voyait en train de le faire. Et après, l'étonnement devant la possibilité de faire passer en France des lettres racontant ça et des photos. Parce qu'il l'a fait, ça. Par quel moyen est-ce qu'il a pu tromper la censure?
Écoutez, j'ai aucune idée, parce que les lettres sont toutes arrivées apparemment normalement. J'ai jamais entendu parler de censure ou quoi que ce soit. Et les photos, il les a envoyées normalement aussi.
Par la poste.
Par la poste militaire. Donc c'est un mystère, effectivement. Comment c'est passé?
Michel Poivert, on n'a aucune explication.
C'est une question qu'on se pose, effectivement, quand on voit... Alors, parfois, dans certaines lettres, il laisse entendre que peut-être celle-ci n'arrivera pas. Mais néanmoins, on se dit, mais si tous les jeunes soldats avaient écrit autant que Gilles Caron, mais quelle masse d'archives formidables! Alors bien sûr, celle-ci est rare, mais je participe de cette interrogation. Comment se fait-il et des fois, quand on regarde les dates, moi j'ai été même surpris de la technicité de la poste, avec des effets de ping-pong. Une lettre arrive un matin, le soir elle repart, et on a une conversation qui est parfois quasiment quotidienne.
Oui, parce qu'il y a une masse de lettres. Ils s'écrivaient quasiment tous les jours, la mère et le fils.
Très, très souvent, mais je crois que c'était une manière de se garder en vie tous les deux.
De survivre.
Tous les deux. Ils avaient besoin de ça. C'était la nourriture de Gilles quotidienne, c'est vrai. Et sa mère vivait pour ça.
Et à la fin, Marianne Caron, Gilles va se révolter et va refuser d'aller en opération. Il y a un moment où il n'en peut plus. Oui. Il va se retrouver en prison.
Oui. Mais il a fait pas mal de prisons. Et en fait, c'est là où il rencontrait le plus d'Algériens, en prison. Parce que sans ça, il les combattait, il les croisait. Mais non, il a... Enfin, ça a été vraiment épouvantable. Et il ne pouvait plus partir. Il a refusé. Il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait accepter. Après, il soignait les géraniums. Et il est devenu vaguemestre. Mais vaguemestre, ça veut dire qu'il n'était plus armé, qu'il était... qui faisait les transports de gens. Enfin, il n'était plus dans le combat du tout.
On sent cette amertume qui monte, mais on se dit aussi que c'est probablement pour ça qu'ensuite il a voulu continuer non seulement à voir, mais à témoigner. Parce que la photo, on la sent, on sent le besoin de raconter.
C'est très, très visuel, tout ce qu'il raconte. Toutes ces lettres sont très visuelles de toute façon. Et en fait, je pense qu'il a... Quand il était en Algérie, il a subi l'Algérie, il a subi la guerre, il a subi les horreurs de la guerre, les horreurs de toute cette vie, jour après jour. Mais il n'a pas témoigné, si ce n'est par ses lettres à sa mère. Et après, je pense que c'est l'Algérie qui l'a conduit à la vie qu'il a eue après. Le besoin de comprendre pourquoi on pouvait arriver à vivre comme ça, à tuer des hommes, à faire souffrir les gens... comme ça, parce que justement, on est de pouvoir, on est de ça, et ça, il a vraiment, vraiment essayé de passer au témoignage après. Il a voulu témoigner.
In the ground, I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Marianne Caron-Montelli, comment est-ce que Gilles Caron a décidé de devenir photographe? Parce qu'il rentre d'Algérie, vous vous mariez, et quoi? Parce que comment est-ce que tout, il est rentré? Il n'est pas rentré en disant je vais faire photographe.
Ah non, ça c'était la grande inquiétude pour lui quand il est rentré. Il savait vraiment pas ce qu'il allait faire. En fait, il a essayé de monter une galerie de photos avec son ami André Derain, qui était le fils du peintre. Et non, enfin, il s'est occupé de photos avec de peinture avec lui. Et ensemble, ils ont acheté un appareil photo. Et puis, Derain n'a pas vraiment fait de photos. Et Gilles a commencé tout de suite à faire de la photo. Et il s'est intéressé tout de suite parce que ça continuait son idée de témoigner. Ça confortait son idée de témoigner. Il avait trouvé une manière de témoigner qui lui appartenait à lui. Et tout de suite, il a commencé des reportages pour lui. Mais des reportages sociaux. Si vous voulez, dans toute la production de Gilles, je pense que sur les plus de 100 000 vues qui existent, il doit y avoir une ou deux ou trois sans un homme dessus, sans un personnage dessus. C'est les gens qui l'intéressaient dans la photo. C'était pas... C'est comment les gens vivaient leur vie. C'était pas la photo pour la photo, c'était pour la vie des gens, pour comprendre la vie des gens et pour tout ça.
Mais d'ailleurs, Michel Poivert, il n'aimait pas du tout quand on lui disait qu'il était reporter de guerre. Il disait non, je ne suis pas reporter de guerre. Pourtant, Dieu sait s'il a fait des photos de conflits.
Oui, alors disons que c'était probablement vécu déjà comme une étiquette un peu restrictive. Et en même temps, même si on ne veut pas restreindre l'œuvre de Gilles Caron à la photo de guerre, quand on revient sur ce qu'on disait sur l'Algérie et l'expérience vécue, je crois que c'est vraiment un des premiers à avoir réfléchi à comment représenter la guerre moderne, c'est-à-dire un conflit asymétrique, un conflit au sein des populations, qu'il a vécu, qu'il a vu, qu'il n'a pas photographié en Algérie, qu'il a vu. Et quand on regarde le corpus de son œuvre, Marianne disait qu'il y a toujours un humain. Rappelons les lectures, c'est un sartrien pur jus, c'est un existentialiste total, il en parle tout le temps. Tant et si bien que quand on regarde la manière dont il traite certains conflits, on est surpris de voir le temps qu'il passe auprès des populations civiles, parce que ces guerres, celle du Biafra par exemple, est typiquement une guerre asymétrique, où les populations civiles sont prises à partie par l'armée, et il fait beaucoup de portraits, il fait notamment beaucoup de portraits de prisonniers et de civils qu'il isole dans son image. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'il va quasiment monumentaliser ces personnages qui ne sont pas des personnages historiques. Mais il traitera toujours d'égal à égal entre la victime et le combattant. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui propose une écriture du conflit contemporain, à la différence, je dirais, de son ami et ce très grand photographe qu'est Don McCullen.
Mais d'ailleurs, vous dites Don McCullen, j'ai ouvert le scrapbook sur la photo qui fait évidemment penser à la célèbre photo du GI revenant d'opération de Don McCullen. Il y a le même souci de photographier le visage des hommes chez Gilles Caron. Ce sont des photos jumelles.
Alors, elles sont jumelles, mais ce sont des fausses jumelles. Quand on les regarde bien, pour ceux qui veulent les imaginer... Le soldat photographié par Don McCullen est très contraste, très ramassé sur lui-même. Il est en pierre. Il est puissant. C'est une explosion qui attend. Alors que quand on regarde le soldat photographié par Gilles Caron, et on a les planches contact qui montrent qu'il tourne autour, il cherche quelque chose. On a avant tout un visage absorbé. et la masse du corps avec ce point qui, sur lequel vient reposer le menton, qui est beaucoup plus proche d'une figure de penseur que d'une figure de guerrier. Et je crois que quand on regarde les planches françaises, qu'ils ont été beaucoup ensemble, notamment au Biafra, sont beaucoup photographiés mutuellement. Chez Gilles Caron, il y a pour moi une dimension littéraire dans son écriture photographique, alors que Don McLean conserve la puissance du héros et la dramaturgie du risque du photographe. Alors que chez Gilles Caron, cette dramaturgie du risque, peu à peu, elle s'efface au bénéfice de la construction de personnages absorbés, beaucoup plus délicats, beaucoup plus intériorisés. Et il suffit d'avoir en tête que c'est un lecteur de Camus et de Sartre pour comprendre que ce qui l'intéresse, c'est la sensibilité plus que l'action.
Puis il y a ces photos de l'Irlande du Nord. On sait qu'il a été l'un des premiers à être sur place, puisqu'il avait lu, semble-t-il, Marianne Caron, un petit entrefilet dans Le Monde, disant que, justement, au moment de la fête de la Vierge, il y aurait, au même moment, une manifestation orangiste et que, donc, il y avait des risques. Et il y est allé de lui-même, il a voulu.
Oui. Il a lu ça, il est parti.
Et l'Irlande, ça a été pour lui quelque chose, justement parce que, comme le disait Michel Boisvert, il a photographié les simples humains pris dans le conflit. Et il y a cette photo que vous aimez particulièrement et qui est très frappante, qui est de cette jeune fille au milieu d'une rue dévastée.
Oui, celle-là, elle me trouble beaucoup. Mais c'est une femme, elle sait pas quoi faire, quoi. Elle sait pas si elle va avancer, reculer, qu'est-ce qui va se passer pour elle la seconde d'après. C'est, tout est possible et tout est fermé en même temps. Donc c'est... C'est une photo très très dure.
Alors il y a très peu, quasiment pas d'enregistrement de la voix de Gilles Caron. Nous on en avait quelques-unes, mais au milieu d'émissions avec d'autres personnes où il disait pas trop de choses. Donc on va passer celle de 1968 d'une émission qui est passée sur RTL. Le son est très mauvais, mais on entend bien sa voix parler justement de ces conflits auxquels il a participé avec son appareil.
Parlez-nous du Vietnam. Le truc le plus marquant que j'ai fait, ce qui m'a le plus frappé, c'était une colline sur laquelle il fallait grimper. Il n'y avait pas tellement de journalistes qui étaient candidats pour y aller. Je me suis embarqué sur un hélicoptère qui avait ramené les cadavres. Et le lendemain matin, ils sont montés à l'assaut. Ça a duré une heure et demie à peu près. C'était épouvantable. C'était vraiment épouvantable. J'ai eu pas mal de parutions là-dessus. Magazine européen, journaux américains aussi.
Vous avez fait le Biafra aussi?
Trois fois dans l'année.
Vous êtes le premier à aller au Biafra, je crois.
C'est-à-dire que la première fois, plusieurs types y étaient allés déjà, dont un type de l'agence, Marco Herbach, qui est mort là-bas.
C'est vous qui l'avez remplacé?
Oui. La première fois, on n'en parlait presque pas du Biafra. Et puis, j'ai fait la guerre, c'était tellement horrible que ça a frappé les gens, ça a eu un match à fait 6 pages là-dessus. Life a commencé aussi. Après, j'ai surtout un moment de la fin. C'était vraiment atroce. Beaucoup de photos épouvantables. De gosses qui meurent, de femmes qui meurent, de vieillards qui meurent. Après, ça a été la troisième fois que j'y suis allé. Je suis allé pour les mercenaires. Enfin, j'ai vécu avec les mercenaires là-bas.
On sent dans la voix de Gilles Caron quelque chose de fracasser. En fait, il y va, il prend des photos saisissantes, à tel point que Hubert Henrot lui dit « Mais tu es malade, arrête de prendre des risques pareils », parce qu'il est vraiment avec les soldats qui montent à l'assaut. Mais plus il témoigne, plus il est dévasté par ce qu'il fait, Marianne Caron.
Oui, non, mais c'était vraiment des moments épouvantables. Mais il est allé trois fois dans la même année au Biafra, et ça, je crois que c'était... Ça a été terrible, le Biafra. Le Biafra, ça a été terrible pour moi aussi, parce que quand j'ai récupéré les photos, je ne pouvais pas dormir dans la chambre où il y avait les photos du Biafra. Je ne pouvais pas vivre avec tous ces gens morts, tous ces gens, toutes ces horreurs. Et même maintenant, 42 ans après, quand je regarde les photos du Biafra, j'ai beaucoup, beaucoup de mal.
Michel Poivert, Dieu sait si... Alors, c'est que ces guerres ont été couvertes parce que c'était les grandes années du photojournalisme, puisqu'il y avait les magazines américains, les grands magazines français. Donc, c'est la période où il y a eu le plus de photos de guerre. Et dans les photos de Gilles Caron, il y a aussi le cadrage, l'œil, cette manière si particulière de se mettre immédiatement au bon endroit. Alors, dans le scrapbook, on voit les photos, évidemment, qu'il choisit les meilleures, mais elles y sont. C'est-à-dire que les journaux qui vont passer les photos ne vont pas passer les photos parce que c'est des photos de guerre et qu'il faut couvrir. Ils vont les passer parce qu'elles apportent un regard différent.
Oui, elles apportent quelque chose et on comprend exactement ce qu'elles apportent quand on observe les planches contact. Parce qu'en fait, Dulcaron invente des formes. Il est là au bon moment, certes, il est en feu de l'action, d'accord. Mais quand on observe les archives, on se rend compte que pour une image qui va être publiée, des séquences de 2, 3, 4, 5, 10 images peuvent être réalisées. On parle du Biafra. Au Biafra, il va littéralement réinventer la figure de la mère à l'enfant et inventer ce qu'on appellerait aujourd'hui une icône compassionnelle. Il va faire des dizaines, des centaines d'images de mère et de père à l'enfant. Il les cherche, il cherche le point de vue. Je dirais que c'est presque un sculpteur qui modèle en permanence pour arriver à des images qui vont être parfaites. Qu'elles soient frontales, qu'elles soient souvent en contre-plongée pour monumentaliser les personnages les plus humbles. Des images d'enfants faméliques, on en a vu beaucoup. Mais comme chez Gilles Caron, des images d'enfants faméliques qui sont d'une élégance, malgré la nudité, malgré le caractère décharné des corps, qui soient de cette puissance et qui vous fassent réfléchir plutôt que pleurer, c'est rarissime. Et puis, il faut dire une chose par rapport à ces images qui réussissent chez Gilles Caron, qu'on n'a pas toujours à l'esprit quand on parle de l'époque et du reportage, c'est la couleur. Gilles Caron a toujours un appareil, un second appareil chargé en couleurs, et il pense aussi en couleurs. Alors, pour faire des doubles pages, pour faire des couvertures, mais lorsqu'on les a récupérées, ces images, on voit que la couleur produit un effet de présence et d'actualité tout à fait incroyable. Que ce soit à Londonderry en 69 ou que ce soit au Biafra en 68, il travaille, il modèle en noir et blanc, en couleur, il cherche. Et l'image qu'il va rester, qui va être choisie par le rédacteur en chef de tel ou tel Paris Match, c'est une image qui est parfaitement équilibrée. Il ne s'agit pas simplement d'être là, il faut construire. Et ça, c'est vraiment la leçon de l'archive. Montrer que ce qui est a priori un instantané est en fait le fruit d'une construction.
Voilà, toutes ces photos et ces couvertures de magazines, c'est bien sûr dans le scrapbook de Gilles Caron qui vient de paraître aux éditions Liénard. Thank you. Nassia Nautebourg.
Bonsoir Kathleen.
En attendant janvier 2013 et l'exposition des photos de Gilles Garand dont Michel Poivert nous parlait il y a un moment, vous êtes allé, vous, à Paris, promener votre micro dans une autre exposition photo, celle de Paul Strand, à côté des photos d'Henri Cartier-Bresson.
Voilà, il s'agit d'une exposition sur le Mexique. Alors, Henri Cartier-Bresson et Paul Strand sont tous les deux allés au Mexique au début des années 1930 et ils en sont revenus avec des images complètement différentes. Et c'est là tout l'intérêt de l'exposition. Sur deux étages, le même pays, la même époque, mais deux mondes pourtant et deux façons d'envisager la photographie. Chez Paul Strand, le Mexique est mythique, rural, religieux, il y a dans ces images une puissance évidente, quelque chose de figé, comme un recueillement de terriblement humain. Chez Henri Cartier-Bresson, c'est au contraire la légèreté de la rue, le mouvement, des compositions instinctives comme on picore à la volée. La confrontation des deux regards est saisissante, elle est osée et surtout très réussie. Et c'est Agnès Cyr, la directrice de la Fondation, qui nous en fait la visite.
Ils sont allés au Mexique pour des raisons totalement différentes. Paul Strand est déjà un photographe assez confirmé, avec un bagage intellectuel et un engagement politique. Le gouvernement mexicain le charge de la réalisation d'une série de films documentaires qui vont l'occuper énormément. Cartier-Bresson est un jeune homme qui vient de fréquenter énormément les surréalistes à Paris. Il est invité à partir au Mexique avec une expédition anthropologique qui va suivre le trajet d'une route, une grande route sud-américaine, et voir les effets que la construction de cette route aura sur les populations. Cartier-Bresson se prend d'amour pour le Mexique et décide d'y rester. Il va y rester un an.
Henri Cartier-Bresson, Paul Strand, Mexique, 1932-1934. Ici, on est dans la salle qui est consacrée à Paul Strand. Il y a beaucoup d'objets religieux, il y a des paysages, une notion architecturale même dans ses portraits qui est très importante.
Paul Strand est très imprégné de la statuaire religieuse. Paul Strand, il n'est pas dans le mouvement, il prend son temps pour faire les photos, il travaille avec un gros appareil photo, une chambre grand format, donc il est visible, on le voit, il s'installe, il n'est pas là pour saisir un moment. Il est là plutôt pour enregistrer une présence et signifier certains paysages, certains détails d'architecture.
On est ici dans le documentaire.
Bien sûr, on est dans la photographie du monde réel. Il a été très intéressé par les recherches sur la campagne, sur l'endroit où on pêchait. Et c'est une distance réfléchie.
Portrait. Femme d'Alvarado.
Oui, c'est une femme d'Alvarado, donc le village de pêcheurs
1933.
Où il a tourné son film. Elle est tout à fait traitée comme une madone. Elle est grave, elle est de profil, extrêmement posée, extrêmement plastique. C'est vraiment une statue.
Et donc là-bas, il y a le portfolio.
Oui, parce qu'on a voulu, avec ce portfolio, on a voulu que le public puisse le lire du début à la fin.
Portfolio.
Pour que les gens se rendent compte
pourquoi
une photo vient après une autre. Pourquoi tout d'un coup il y a deux statues religieuses? C'est un rythme que Paul Strand a voulu donner à son portfolio. C'est sa décision.
Donc on alterne entre des portraits,
des paysages au début, à la fin, et puis des portraits de statues et des portraits de personnages dans des petits villages mexicains.
Et on arrive à la fin avec ce porche.
Oui, c'est un portail d'église. Porte qui est très présente, la lumière est un peu dramatique. Il y a un ciel très lourd.
Il y a une forme de théâtralité chez lui aussi.
Je pense que c'est le jeu avec les lumières qui fait ça. Les noirs et blancs sont très calculés, c'est des photos très immobiles.
Il n'y a pas d'accident.
Non, c'est plus une méditation.
On va à l'étage ? Et là, on est dans l'univers d'Henri Cartier-Bresson. Il y a une éruption de vie, de désordre, de jeu, de butinage un peu.
C'est le foisonnement de la rue, c'est un grand bonheur, on sent ça. Presque une exception dans l'œuvre de Cartier-Bresson, où on le sent tellement proche des gens, des enfants notamment. Il y a la vie déborde.
Il paraît presque anecdotique et léger, en fait.
Effectivement, c'est un petit peu plus anecdotique, c'est vrai. C'est pas toujours léger quand on voit cette photographie absolument exceptionnelle de la femme qui porte un bébé dans un châle noir, un
portrait,
peu comme si
femme et enfant.
Un peu comme s'il était mort, mais il est pas mort. Mais cette femme représente la mort presque. Elle est
1934.
Elle est assez effrayante. Et d'ailleurs, juste à côté, il y a cette photo du fabricant de cercueils qui a l'air un peu goguenard, mais c'est un fabricant de cercueils d'enfant quand on voit la taille. La liaison entre ces deux images est assez intéressante. Et c'est à propos de cette image dont Cartier-Bresson disait qu'il vivait dans cette rue et que le jour, il y avait les fabricants de cercueils et le soir, les prostituées. Que ce mélange était complètement mexicain.
Au premier étage, juste en dessous de nous, on avait avec Paul Strand des femmes, des madones avec des voiles très graves. Et puis ici, avec Henri Cartier-Bresson, on a des prostituées mutines, souriantes et joueuses.
Oui, ou bien des femmes endormies. Il y a une jouissance, hein, il y a une jouissance chez le jeune Cartier-Bresson à ce moment-là qui est très 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 claire.
Calier, Quatemozzi.
On a deux femmes qui surgissent d'une porte cochère dans lesquelles il y a deux ouvertures comme des fenêtres et toutes les deux passent par chacune des ouvertures. Donc elles font face au spectateur d'une façon pas du tout provocatrice, très amusée.
Ici, on a des personnages qui sortent du cadre. Mmh. En bas, avec Paul Strand, tout était dans le cadre, tout était très construit à l'intérieur.
Mais oui, puisque comme le dit Paul Strand, lui, une photo peut prendre 3 minutes à être enregistrée. Chez Cartier-Bresson, c'est une fraction de seconde, mais c'est très très rapide. Donc effectivement, ça veut dire que parfois, les personnages sortent du cadre. On sent cette capacité qui était absolument fulgurante, dans une fraction de seconde, d'avoir le compas dans l'œil pour tout d'un coup fixer un moment dans une excellente composition. Cette exposition, elle s'appelle Mexique. Bien sûr que ça dit des choses sur le Mexique, mais pour moi, c'est plus une exposition sur la photographie que sur le Mexique. C'est-à-dire que quand on voit ces deux regards, ils englobent un gros pan de l'histoire de la photographie. C'est la mise en perspective de deux attitudes totalement différentes face à la photographie.
Paul Strand, c'est le plus que parfait. Mm-hmm. Henri Cartier-Bresson, c'est le présent. Il y a deux conjugaisons, en fait.
Oui, c'est pas faux. Cartier-Bresson, c'est le présent, mais c'est le présent avec un cerveau hyper construit. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui disait que Breton lui avait appris à fouiller dans les gravats de la mémoire. Et c'est quelqu'un qui fait des photographies avec ça en tête. Paul Strand, il n'était pas du tout dans cette notion de sauter d'un élément à un autre. Quand il faisait une photo, il était quelque part dans la méditation.
L'exposition Henri Cartier-Bresson, Paul Strand, Mexique, c'est donc jusqu'au 22 avril à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris.
Merci beaucoup, Vinciane. Donc pour nous, il faudra attendre jusqu'en janvier prochain pour avoir cette exposition de Gilles Garand. Elle va démarrer à Lausanne, mais on l'aura en France, bien sûr, Michel Boisvert.
Oui, on espère. Alors début 2013 à Lausanne, et puis on espère la faire circuler dans le monde entier grâce aux efforts de la Fondation, il faut le souligner, une Fondation qui valorise l'ensemble de ces fonds négatifs, de ces planches contact, et puis un effort aussi qui est fait avec un fonds de dotation pour essayer de financer tout ça, parce que les archives, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de moyens. Alors il y a toute la générosité de toute la famille de Marianne, de ses amis, mais c'est toujours un pari pour que Gilles Caron devienne vraiment la figure historique à laquelle il a droit.
Mais est-ce que ça veut dire, Marianne Caron, que dans cette fondation, il doit y avoir des mécènes privés, des fonds publics, mais est-ce que, par exemple, tous ceux qui aiment la photo de Gilles Caron peuvent envoyer des dons?
Très bonne idée.
Mais oui, pourquoi pas?
Nous avons le soutien de la Fondation Bru, qui nous aide depuis le début. Mais là, pour le moment, nous aimerions avoir beaucoup de fonds privés qui viennent nous aider. Ça serait vraiment formidable.
On
a besoin de ça.
Oui, oui.
Bon, la Fondation a besoin de ça.
Et Fondation
Gilles
Caron.
De la Fondation a vraiment besoin d'être aidé aussi pour tout ça.
Merci infiniment.
Je voudrais les remercier tous.
Merci infiniment d'être venu ce soir, Marianne Caron-Montelli, Michel Poivert, nous parler de Gilles Caron. Je rappelle que le scrapbook est sorti aux éditions Liénard et que ses lettres d'Algérie, appelées « J'ai voulu voir », viennent de paraître chez Calman Lévy. Merci infiniment à tous les deux. Au revoir.